Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Danseman.
Bonjour Valérie.
Et bonjour Nicolas Vanier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comment ? Écrivain, réalisateur, explorateur. Vous êtes un amoureux des animaux également. Et on va parler avec vous de ce tout nouveau livre qui paraît chez Ixo, Polly. Alors Polly, ça va évoquer évidemment des souvenirs à beaucoup d'entre nous. Peut-être un temps que les moins de combien de 30 ans, 40 ans peuvent pas connaître.
Certains d'entre nous,
certains.
Voilà, mais Polly, un petit peu derrière eux.
Polly, ce poney qui nous a passionnés. Vous avez imaginé une autre histoire à partir de celle de Polly. On va en reparler dans un instant.
Aubry.
Oui, oui, bah évidemment, oui. C'est Cécile Aubry. C'était, vous aviez réalisé Belle et Sébastien également. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi cet univers de celui de Cécile Aubry vous passionne. Et puis, il y a un film qui va sortir, évidemment, avec Polly. Alors, on va commencer avec les audiences d'hier soir. Est-ce que vous regardez la télévision, Nicolas Vanier?
Ça m'arrive.
Oui.
Mais je préfère aller me promener dans les bois, surtout
oui,
en ce moment. C'est tellement merveilleux.
Oui,
il y a des girolles, il y a des girolles,
oui,
il y a des fraises des bois. Donc, je préfère ça.
Ouais. Mais le soir, non, le soir, vous n'allez pas dans les bois, si, quand même.
les actualités, et puis parfois certains vieux films, mais pas fana, non.
Pas fana
de télévision.
Même pas de série. De séries, de fiction, séries animalières.
On devient vite addict.
Hein, oui.
Ça m'est arrivé une ou deux fois. J'ai regardé parce que tout le monde en parlait, la Casa del Papel.
Ouais.
Bon, effectivement. Ouais. Mais encore une fois, je préfère les girolles et les fraises des bois.
Bah, vous êtes addict aux girolles.
Voilà.
Alors, hier soir sur TF1, c'est The Resident qui est arrivé en tête avec 4 millions de téléspectateurs, même score que la semaine dernière. Deuxième position, c'était pour M6. On avait hier Christian
Philippe
et Philippe Etchebest, pardon. Et c'était un vrai carton. 3 344 000 téléspectateurs, 16% du public qui était devant Cauchemar en cuisine. Et puis le documentaire qui lui était consacré a très très bien fonctionné également. 2 231 000 téléspectateurs, 18,9% de part d'audience. C'est une star, notre ami Philippe Etchebest. On a Isabelle en ligne avec nous. Qu'avez-vous regardé à la télévision hier? Je crois que vous avez regardé Cauchemar en cuisine.
Bonjour Valérie, bonjour les invités.
Bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Cauchemar
Moi,
en cuisine.
Cauchemar en cuisine, oui.
Ah bon. Et c'était un inédit. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on est scotché par les histoires de cette émission. Hein.
Exactement. En plus, moi, je suis dans le métier. Donc, du coup, Philippe Etchebest, c'est un grand chef qui est très, très respecté. Donc, du coup, on est toujours à l'affût du dernier épisode, de l'épisode inédit. Et c'est vrai que c'est des causes qui nous tiennent à cœur.
Vous êtes un peu sidéré de voir parfois le fonctionnement de certains restaurants, justement?
Oui. oui. Moi, j'ai fait une école d'hôtellerie. Mmh. Et effectivement, quand on voit certains restaurants, le fonctionnement et comment ça se passe avec la clientèle, on se pose des questions par moments.
J'espère que vous n'avez jamais vu des toilettes comme on a vu hier soir. Parce que les toilettes d'hier soir, c'était quelque chose, hein.
C'est ça.
Bon, moi j'ai pas tout vu, mais en tout cas, à chaque fois, il tombe sur des choses. Vous avez déjà regardé cette émission ou pas, Nicolas Vanier? Non.
Non.
Donc Philippe Etchebest qui se retrouve dans des restaurants qui sont un peu en perdition. Voilà. Merci Isabelle de votre appel. Donc plutôt gros carton pour M6 hier. France 2 est arrivé en troisième position avec la série Romance. 1 895 000 téléspectateurs et puis Des Racines et des Ailes. Ça, c'est une émission que vous devez regarder de temps en temps, Nicolas Vanier, non? 2 406 000 téléspectateurs.
Spectateurs. Ça a dû m'arriver une ou deux fois.
Mais
non,
pas
mais
plus
encore
que
une
ça,
fois,
non.
Je suis pas fan de...
Pas plus que ça.
Il y a une spéciale champignon en France.
Voilà, quand il y a une spéciale girole. On va passer au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Ah Valérie, Raoult par-ci, Raoult par-là, alors vraiment, hein, en ce moment c'est Raoult superstar. Et avant même le débat, le professeur marseillais avait ses supporters et ses détracteurs, comme Laurent Alexandre, médecin fondateur de Doctissimo sur LCI. C'était évidemment avant l'intervention.
À part Philippe d'Ouste-Blazy, Raoult et puis Perronne, il y a un consensus de tout le monde pour dire que la médecine que l'équipe Raoult-Perronne veut mener aujourd'hui est une médecine du passé, une médecine qui nous conduit vers le Moyen-Âge, une médecine de la mystification, une médecine qui se rapproche du charlatanisme. Hier soir, la totalité des sociétés françaises d'infectiologie, de microbiologie, tous les spécialistes français de la microbiologie, de l'infectiologie, des parasites, du monde des virus ont fait un communiqué cinglant en disant qu'il n'était plus possible de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi.
Et puis évidemment, ses supporters comme Marine Le Pen sur LCI.
Est-ce que oui ou non, pris au tout début des symptômes, l'hydroxychloroquine pouvait éviter l'aggravation d'un nombre important de cas? Si, et c'est en tout cas le choix qu'ont fait un certain nombre de pays, et notamment beaucoup de pays du Maghreb, qui s'en sortent très bien. Hein. Si l'hydroxychloroquine permettait ce résultat, et que le gouvernement a fait en sorte de ne pas l'utiliser, et même de l'interdire, alors tout à fait évidemment, nous avons là les éléments d'un véritable scandale sanitaire majeur.
Ou encore Michel Onfray, qui a fait part d'une expérience personnelle.
Ce que j'ai aimé chez le professeur Raoult, dès le départ, c'est qu'il a eu un cap. C'est cette idée de dire, je fais cette proposition, et il faut ajouter quelque chose d'extrêmement important. On teste. Mais je ne suis pas dupe. Il a aussi dit des choses qu'on peut retenir contre lui. Hein. Je ne suis pas un dévot. Je dis juste que moi, quand je me suis retrouvé avec un infarctus, avec l'impossibilité de partir en hélicoptère un matin parce que j'étais à Argentan, qu'il y avait du brouillard, etc., il y a un toubib vacant par téléphone qui disait, écoutez, on peut prendre un risque, il y a ce médicament, mais il faut que le patient soit d'accord. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque et j'ai bien fait de prendre le risque de ce médicament.
Et puis après les débats, eh bien, ce fut l'audition du professeur par la commission d'enquête de l'Assemblée. Alors, il y a été à la sulfate, Valérie, et là, il a tapé sur le conseil scientifique. Il l'a carrément ignoré durant toute cette période.
J'ai tout le temps, ce que j'aurais dû transmettre au conseil scientifique, ça c'est de la science, je l'ai transmis directement et à l'Élysée et au ministère de la Santé, tout le temps. Et donc, il n'y a rien de nouveau que je n'ai annoncé avant à mes autorités de tutelle. Est-ce que ça répond à votre question ?
Et puis ce matin, c'est un peu l'épilogue de toute cette journée. Le professeur Raoult était enfin sur BFM chez Jean-Jacques Bourdin. Alors là aussi, hein, ça a failli, comme disent les jeunes. Le professeur a même failli partir, Valérie.
Je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ?
Ce serait une erreur.
Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, de votre plan aussi. Je m'en fous aussi. Voilà. Donc bon. Si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous.
Bon, alors allez-y.
Vous l'avez bien compris ?
Allez-y.
Quoi, je m'en vais ?
Allez-y. Allez-y, de nombreux professeurs de médecine, allez-y. Partez, ne partez pas, j'ai des questions à vous poser.
Non, mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens ? Ça n'est pas intelligent.
Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes.
Si. Ouais, voilà. Valérie, je vous ai gardé d'autres extraits pour votre 11h midi.
On en parlera à 11h, ça vous a fait sourire
Non,
Nicolas Vanier, vous avez suivi
non, mais
tout ça.
Sur toute cette histoire, ce qu'il faut constater, surtout avec le recul, c'est qu'il y a eu tellement d'avis contradictoires.
Absolument.
Que lorsque j'entends Marine Le Pen qui critique de façon très facile le gouvernement, je pense que les décisions politiques étaient extrêmement compliquées à prendre parce que les plus grands de ce monde s'opposaient, disaient un jour blanc, un jour noir, parce qu'on ignorait beaucoup de choses.
Ouais.
Donc avec le recul, c'est tellement facile de refaire l'histoire.
De refaire le match,
donc je pense qu'il faut avoir une certaine bienveillance à l'égard de ceux qui seront comme me donner beaucoup de mal pour essayer de nous sortir de cette situation.
Ça veut dire que vous avez trouvé Macron formidable durant cette période ?
J'ai une certaine bienveillance vis-à-vis effectivement de ces deux hommes, on va dire, et même plus que ça, de tous ces politiques qui effectivement étaient à la conduite de cette affaire,
qui me semble
très difficile. Voilà, c'est tellement facile. Disons que les critiques telles que j'en entends de Marine Le Pen et autres, effectivement, ça mérite le poil. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Et c'est évident que lorsqu'on est face à une crise comme celle-ci, on va faire des erreurs. On le sait, quand on mène une guerre, une bataille, on fait des erreurs. On ne peut pas tout réussir, mais je pense qu'il faut avoir une certaine bienveillance. Voilà.
Vous l'avez vécu où, vous, le confinement ?
Ben moi, je l'ai vécu de façon extraordinaire, parce que j'étais avec ma famille en Sologne, donc voilà, j'étais dans les bois toute la journée, donc c'était vraiment formidable.
C'était plutôt agréable. Vous écrivez, vous continuez
Dans ces cas-là, oui, c'est vrai que c'est des moments formidables pour pouvoir effectivement écrire, et c'est vrai que moi, j'ai toujours écrit en Sologne, et du coup...
Vous êtes attaqué à un nouveau livre. On va déjà parler de celui-ci, Polly. Donc Polly, c'était dans notre... On va peut-être écouter le générique, je crois qu'on doit l'avoir, Jamel.
Polly, Polly, polisson, saute par monts et vallons, danse dans les prés comme un petit collet.
tellement joyeux, c'est tellement... Oui.
C'est vrai que c'était une période...
Isabelle Aubray.
Une période plein de couleurs, plein de... Alors c'est vrai que j'ai essayé de reprendre un petit peu l'ADN de ce qui a fait, je crois, le succès de cette série. En tout cas, ce qui a fait que ça m'a tant ému, moi, enfant. Oui, j'ai essayé de retrouver, aussi, avec cet ADN-là, de redonner vie un petit peu à cette
Comment ça se passe quand on s'attaque à un projet comme celui-là, ou comme Abel et Sébastien, c'est-à-dire des choses qui ont déjà existé, qui ont été tournées? Il faut demander l'autorisation aux ayants droit, on est libre de
faire ce qu'on concerne Bel et Sébastien, et ça a été la même procédure, on va dire. Moi je me suis directement adressé à celui qui est devenu un ami, c'est-à-dire Mehdi qui a d'ailleurs tourné dans Bel et Sébastien, parce
j'étais amoureuse de lui, moi.
Voilà, je me voyais pas reprendre sans avoir son accord, et j'ai eu dès le départ plus que son accord, parce que voilà, il a validé l'histoire, le scénario, l'esprit, et j'ai essayé de rester fidèle, encore une fois, à l'ADN.
Donc Poli, ça paraît aux éditions Fixo, c'est vraiment les gens qui préparent leurs vacances, qui se demandent ce qu'ils peuvent lire, c'est vraiment un livre qui est un livre typiquement un livre d'évasion, et à la fois ça parle de nature, et puis il y a une certaine légèreté qu'on a un petit peu oubliée à notre époque.
Oui, mais ça m'a surpris lorsqu'on a présenté pour la première fois la semaine dernière le film qui est terminé. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé en 30 ans pour être devenu aussi triste à l'image de toutes ces voitures qui sont grises, alors qu'à l'époque, effectivement, tout était en couleur. Et donc, je pense qu'effectivement, ce livre respire le soleil, les cigales, et puis surtout, bien évidemment, l'amitié, même l'amour. Entre donc qui existe parfois entre un animal et un être humain, je suis bien placé pour le savoir. Ça m'est d'ailleurs arrivé avec un petit cheval extraordinaire lorsque j'ai traversé pendant un an moi les montagnes rocheuses à cheval, et je me suis beaucoup inspiré de cette relation incroyable que j'avais avec ce cheval qui s'appelait Punky pour écrire cette histoire.
Et une différence, parce qu'on vous connaît évidemment pour vos expéditions, puis vos expéditions en chien de traîneau, la relation entre le cheval et le chien
C'est différent, parce que le chien ou les loups sont des prédateurs. Les chevaux sont des animaux qui n'ont besoin que de baisser la tête pour pouvoir se nourrir. Il y a donc, j'ose le terme, une intelligence qui n'est pas forcément la même, en tout cas qui paraît moins développée aux humains que nous sommes. Mais ça reste des animaux qui sont, et ça je l'ai découvert de plus en plus et depuis toujours, de véritables éponges qui reçoivent ce qu'on leur donne. Et c'est la même chose sur un tournage. Et donc, c'est assez extraordinaire de voir effectivement ce qu'on peut obtenir. Et c'est ça que j'ai essayé d'écrire dans ce livre.
D'écrire et de raconter dans le livre.
Moi, je voulais savoir, Nicolas Vanier, j'imagine que ce n'est pas le même Poli de l'époque, c'est un autre Poli.
C'était en 61.
C'est un autre Poli. Est-ce que c'est plus difficile de tourner aujourd'hui avec les animaux, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'associations qui sont très vigilantes à ce sujet? Et comment on trouve un cheval comme Poli pour tourner, et c'est combien d'heures de tournage? Est-ce qu'il y en avait plusieurs?
Alors
comment
d'abord,
on tourne maintenant avec
alors d'abord, effectivement, c'est formidable qu'il y ait aujourd'hui des règles, parce que c'est vrai qu'il fut une époque où on utilisait, entre guillemets, les animaux. Ensuite, il y a eu un casting, comme pour celle qui a incarné, donc un casting de poney, c'est-à-dire qu'il y a certains critères physiques, comme pour un casting d'humain.
Ouais.
Et puis surtout, après, on voit quelle est l'aptitude, bien sûr. Après, on voit quelle est l'aptitude aussi de l'animal à pouvoir comprendre des indications qu'on va lui donner, par exemple de déplacement, d'avoir aussi des attitudes, parce qu'il y a des chevaux qui ont certaines attitudes magnifiques, d'autres moins. C'est exactement comme pour un casting, on va dire, d'humain. On essaie de savoir quel va être celui qui va incarner le mieux possible le personnage et qui va pouvoir jouer. Et quand je dis jouer, c'est dans les deux sens du terme, parce que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'obtenir des animaux ce qu'on souhaite pour un film par le jeu, par le plaisir.
Refaire la séquence combien de fois, Poli? Est-ce qu'il va faire
Comme pour un
acteur, parfois une fois, parce que c'est extraordinaire, et puis parfois 30 fois, parce qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. Ça peut être 10, 20, plusieurs jours, on y revient, tout dépend un petit peu des circonstances. Et...
Moi, je voudrais qu'on revienne au livre. Alors, c'est marrant les réactions de nos auditrices, plutôt, parce que certaines nous disent on était toutes amoureuses de Mehdi, on était nombreuses. Et puis, le générique, on a une auditrice qui nous dit ah, c'est fou, en entendant le générique, les paroles me sont revenues. Donc, il y a un écho, effectivement, chez beaucoup d'entre nous. Et cette histoire que vous racontez, elle est fidèle à ce que Cécile Aubry écrivait, c'est-à-dire sur, encore une fois, cette nature, ces animaux, parce qu'il y a un message dans le livre qui est sur les animaux de cirque, les animaux enfermés.
Oui, il y a tout un débat là-dessus. Oui. Je crois que voilà, on est arrivé à la fin des cirques où on voit des lions ou autres avec le fouet, comme on a pu voir, effectivement, et c'est bien. Et c'est vrai que voilà, cette histoire de Polly, elle glorifie encore une fois l'amitié formidable qui peut exister entre un homme ou une femme avec un animal.
Ouais. Et vous regrettez ces années 60 ?
Moi, je suis pas un homme du passé, mais je pense qu'avec cette accélération complètement folle du monde qui va nous mener je ne sais où, parfois il faut savoir regarder dans le rétroviseur. Et effectivement, il y a des choses qu'on a laissées derrière nous qu'il faut peut-être remettre à l'ordre du jour, qui sont peut-être effectivement de la couleur, un petit peu plus de légèreté, un peu plus de sobriété, pour reprendre ce livre que je suis en train de relire et que tout le monde devrait lire, qui s'appelle La sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à un moment du monde où il faut réfléchir, où il faut ralentir, où il faut revenir un petit peu à ce qui finalement est évoqué dans ce livre et dans ce film.
Et la jeunesse, c'est l'espoir. Enfin, c'est aussi un petit peu le message du livre.
Ah bah, oui,
c'est-à-dire
bien
que cette jeune fille, parce qu'il faut expliquer que c'est une jeune fille, Cécile, qui a pris la place de Mehdi dans la version que vous proposez de Polly. Et elle est extrêmement courageuse, elle a beaucoup de qualités, mais c'est une enfant et elle a des leçons à donner, justement. Enfin, je mets leçons dans le sens positif aux adultes. Hein.
Oui, d'ailleurs, moi, je suis toujours très surpris de voir à quel point l'impact que peuvent avoir les enfants, effectivement, actuellement, sur un sujet qui me préoccupe, qui sont, par exemple, l'écologie, réchauffement climatique, etc., d'enfants qui, le soir, en rentrant chez eux, disent aux parents « Oui, il faut que tu arrêtes ceci, il faut que tu arrêtes cela, il faut que tu tries, il faut que tu... » Il y a aujourd'hui quelque chose de formidable qui est en train d'émaner, effectivement, de tous ces enfants du monde qui se lèvent
pour nous dire
vous n'avez pas le droit de continuer... comme vous le faites, parce que vous allez nous laisser un monde sur lequel nous n'allons pas pouvoir vivre, et ils ont raison.
Vous êtes un Greta Thunberg.
Il y en a beaucoup de Greta Thunberg. Après, on peut critiquer ce qu'elle est, etc. Mais il y a, j'en vois tous les jours. J'ai l'immense honneur d'avoir 7 écoles en France qui portent mon nom, et je rencontre beaucoup de ces enfants, de professeurs qui font d'ailleurs un travail extraordinaire. Et c'est vrai que ça donne de l'optimisme, parce qu'on voit qu'il y a une vraie volonté, une vraie envie. Et je trouve que tous ces enfants devraient nous faire un procès de crime contre l'humanité. Alors même qu'aujourd'hui, nous savons, et il suffit de lire le dernier rapport du GIEC sur ce que va causer comme dégâts le réchauffement climatique, le coronavirus, et je suis désolé, bien évidemment, pour tous ceux que ça a touché, c'est pas grand-chose à côté de ce qui nous attend dans 15 ou 20 ans, si on continue...
On s'émerveillait de voir des pingouins ou des canards dans Paris, mais la vie a repris le dessus.
Il n'y a pas de pingouins dans Paris.
Non, mais il ne pas des pingouins, des canards.
Malheureusement, tout va reprendre comme avant.
Vous êtes d'accord avec ça? C'est dommage de voir que finalement, la conscience, elle est sur 2-3 réseaux, et puis après, c'est la vie qui reprend le dessus, non?
On va changer des petites choses. Il y a des petites choses qui vont changer, mais c'est pas des pièces de la voiture qu'il faut changer. C'est la voiture.
Ouais. Le livre est paru. Donc, Polly, c'est aux éditions IXO. Et le film va sortir quand?
Il
y a eu beaucoup de bouleversements.
Le 7 octobre. Mais la date prévue aujourd'hui est le 7 octobre.
Ouais, après, il y a eu beaucoup de bouleversements avec le Covid, de films qui ont été retardés.
Il y a, comme vous le savez, eu quelques petits bouleversements dans la vie de nous tous.
Donc, Polly, une version revisitée par Nicolas Vanier, à lire et pour se souvenir de ce poney magnifique. Merci à vous.
Merci.
On se retrouve dans un instant avec Rémi Pernelet pour parler médias. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Beaucoup, beaucoup de bouleversements dans tous les secteurs de la société, mais également dans les médias. On l'a évoqué la semaine dernière avec Rémi Pernelet qui nous a rejoint. Bonjour Rémi, bonjour, journaliste bonjour, spécialiste des médias. Et donc on a vu hier BFM TV, RMC faire grève, ce qui est relativement inédit. Enfin, il y avait eu des grèves à CNews, mais pas exactement pour les mêmes raisons. On a l'Équipe, Le Parisien également, qui sont menacés par des licenciements, par des restructurations. On va parler de tous ces bouleversements avec Mathieu Coach, qui est avec nous en plateau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique pour BFM TV. Vous avez été correspondant à Washington et vous êtes porte-parole de la Société des journalistes de BFM TV. Vous êtes avec nous en studio. Et Francis Magoua, bonjour.
Bonjour.
Délégué syndical SNJ de l'Équipe, c'est le plus gros syndicat du groupe. Donc Rémi, peut-être un petit point sur tous ces bouleversements.
Ben oui, parce que les bouleversements dont on parle, c'est pas de petits bouleversements. Hein. On parle d'une grève à Next Radio TV. En fait, c'est le groupe qui regroupe aussi bien BFM TV que les radios RMC et RMC Sport, qui comprend 1300 personnes. Mais on parle quand même de 380 départs et de la diminution par deux du nombre d'intermittents ou de pigistes. Il y a d'autres groupes, Le Parisien, qui est un groupe qui appartient au groupe Les Échos, donc a annoncé un plan, 30 salariés en moins, et puis la réduction des 9 éditions locales à une seule. L'Équipe, on parle de, également, on va en parler avec Francis Magoua, mais enfin c'est énorme le plan de sauvetage, puisque le quotidien s'attend à un déficit de 16 millions d'euros pour l'année 2020, donc toutes les mesures, on en reparlera ensuite. Il y a aussi le groupe Média Webédia, qui est un groupe numérique, qui a annoncé un plan de départ de 80 à 90 personnes et des restructurations très importantes. Le magazine Grazia, on en parlait vendredi, il passe maintenant à 3 ou 4 parutions par an. Donc il y a un plan de restructuration. Ouais. Bein Sport est également une chaîne largement menacée avec la redistribution des droits du sport à la télé. Donc en fait, aujourd'hui, on traverse une crise qui est... à mon avis, il y a deux causes structurelles.
Oui.
C'est-à-dire que on voit bien que là, la baisse de l'achat des quotidiens, des magazines existe. Et puis conjoncturelle, parce que la crise du Covid a bloqué les recettes publicitaires pendant 3 mois, et 3 mois de recettes publicitaires pour des médias soit gratuits, entre guillemets, comme tous les médias télé, soit payants, mais qui dépendent parfois à 50% des recettes publicitaires, c'est juste énorme. Et donc, ça induit des déficits. Et voilà, la crise à laquelle on se retrouve confronté en ce moment dans les médias.
Oui, Mathieu Coach, effectivement, pour le groupe Altice, c'est un tiers des salariés qui sont menacés de licenciement aujourd'hui.
Oui, alors pour l'instant, on a un chiffre global pour tout le groupe. Donc, on ne sait pas ce que ça représentera par entité. Donc, par exemple, à BFM TV, je ne peux pas vous dire combien d'emplois seront supprimés. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose régulièrement et dont on aimerait bien avoir la réponse. C'est 380 CDI, ça c'est le chiffre qu'a annoncé la direction, et la moitié des pigistes, donc ça fait en tout autour de 550 personnes, ce qui est évidemment considérable. Structurellement, juste parce que je vous entendais dire qu'il y avait le structurel et le conjoncturel, il faut quand même savoir que BFM TV est une chaîne qui gagne de l'argent, la direction ne le conteste pas, c'est une chaîne qui gagne de l'argent, qui est leader, qui est numéro un, que tout le monde regarde, qui est devenue en quelques années, moi j'y travaille depuis 15 ans, donc j'ai vu cette évolution, qui est devenue, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'écran de contrôle de la France. Tout le monde regarde BFM TV, donc on n'a pas cette crise structurelle. C'est un des seuls médias en France qui gagne de l'argent sur
TNT. Comment est-ce qu'on vous l'explique aujourd'hui? C'est le Covid à bon dos?
Alors, le Covid, il a bon dos, sûrement, en partie. Effectivement, la recette publicitaire s'est effondrée. Ça, on ne le conteste pas ces deux derniers mois. Ça va, on l'espère, redémarrer. Il n'y a pas de raison que la chaîne numéro 1 d'information en France ne redémarre pas. Donc, est-ce que le Covid a bon dos? Est-ce qu'il y aurait eu une autre méthode? Peut-être on aurait aussi pu consulter les salariés, leur demander s'ils étaient d'accord pour se serrer un peu les coudes pendant quelques temps, pendant que la période était difficile. Ouais. Je pense que les journalistes de BFM TV aiment profondément leur chaîne. Moi, je le vois tous les jours au contact des confrères. Il y a un vrai esprit d'équipe, il y a une affection pour cette chaîne, une envie de travailler, et je pense vraiment qu'on aurait pu serrer les coudes et traverser cette crise du Covid. Mais sauf que là, on nous annonce En plus, les choses sont faites un peu dans le désordre, c'est-à-dire qu'on nous annonce d'abord un chiffre, 380, 500, ça dépend comment on compte, emplois supprimés, et pas de projet vraiment pour, vers quoi on va, pourquoi.
Est-ce que ce n'est pas la conséquence, en partie en tout cas, de la perte des droits du sport pour toute la filiale RMC Sport, qui était un des piliers en fait, de développement du groupe, selon Alain Veil. Bon, ben, on rappelle que tous les droits maintenant sont chez beIN Sport ou chez Canal, ou surtout chez le nouveau groupe Mediapro. Donc voilà.
Oui, alors il y a eu des choix stratégiques qui n'ont pas fonctionné. Acheter les droits de la Ligue des Champions, bon, ça n'a pas suffi à rendre ces chaînes rentables. On ne le conteste pas non plus. On sait bien que ces chaînes ne peuvent plus exister dans cette nouvelle donne sans les droits de télé. Mais là, on parle d'un plan de restructuration à l'échelle du groupe. Et puis par ailleurs, je crois que tous les salariés du groupe sont solidaires les uns aux autres.
Vous dites que les chaînes sont rentables, mais lorsqu'on regarde les chiffres du groupe Altice, vous savez très bien que Drahi ne fonctionne que par des endettements, qu'il est en train de revendre beaucoup de choses sur la téléphonie, et donc vous faites partie de ce même phénomène qui est dans le groupe Altice, qui est surtout de rembourser les dettes du groupe Altice, et donc c'est dans ce phénomène-là, BFM est peut-être bénéficiaire, le groupe c'est juste une catastrophe financièrement.
Écoutez, moi j'ai pas, franchement, j'ai pas d'expertise ni d'avis sur le groupe, ce que je sais c'est que ça fait 15 ans que je travaille pour BFM TV, qu'on est en progression permanente, que notre travail n'est pas remis en cause, que BFM TV c'est une chaîne qui sort des infos, c'est une chaîne
qui fait partie d'un tout.
On fait partie d'un tout, effectivement.
Mais c'est peut-être ça la problématique aujourd'hui de certains médias, c'est que c'est devenu des chaînes dirigées comme des entreprises, et des entreprises et non pas des entreprises de presse comme c'est le cas. Alors Francis Magoua, vous avez entendu ce que vient de dire Mathieu Coche.
Je m'y reconnais beaucoup, parce que en fait c'est le même problème, je dirais, c'est une baisse des recettes publicitaires sur lequel maintenant la plupart des groupes, quel que soit le média, s'appuient. Et donc avec la crise du coronavirus, ces recettes ont baissé très fortement. Et il y a eu, je dirais, des réponses différentes d'un groupe à l'autre. Alors pour Next TV Radio, je pense que Monsieur Drahi ou les mandataires ont choisi la manière forte. C'est-à-dire ils dirigent vers un plan social classique, on va dire. Après, les modalités seront à discuter. À l'équipe, la direction a plutôt choisi une manière plus souple. Mais en bout de partie, je dirais, on arrivera au même résultat, c'est-à-dire une réduction des coûts de production. On va raisonner comme des comptables, puisque de plus en plus, c'est ce rapport qu'on entretient avec des directions qui sont beaucoup, beaucoup moins éditoriales que comptables. Donc, ce qui est proposé à l'équipe, c'est un accord collectif de performance collective, ça s'appelle APC. Donc, il y a quelques mois, on ne savait pas du tout de quoi on parlait. Maintenant, tout le monde est bien savant et sait de quoi on parle, parce qu'il n'y a pas que dans le métier, qu'à la presse, que c'est
tout le monde est impacté.
Voilà.
Ouais. Rémi, vous avez une question. Oui, alors
la situation peut-être à l'équipe est quand même différente, parce que l'équipe a été frappée brutalement par l'interruption de toutes les compétitions sportives. Donc les ventes du quotidien ont baissé plus de 60%. La recette publicitaire, il semble que soit plus de 70% selon un papier du Monde. La situation, elle semble quand même, à la fois vous dites la méthode est plus douce, et à la fois c'est peut-être encore un peu plus justifié de s'interroger sur comment maintenir une pérennité pour un journal qui a été fortement impacté. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, sur le constat, on n'a pas trop à discuter. Le fait que le journal a continué pendant la période du coronavirus, ça a permis quand même de maintenir une audience. Alors, elle a fortement baissé, mais maintenant, avec la reprise des compétitions, on s'aperçoit que ça repart, notamment au niveau du chiffre publicitaire. Bon, ça revient progressivement. Nous, ce qu'on a beaucoup regretté, c'est d'être parti d'une situation en plein confinement, pour juste, on était à peine sorti du confinement, on déconfinait tout juste, de quelque part proposer un plan aussi fort. Quoi.
Mais vous êtes opposé au principe, puisqu'en fait on vous demande de faire des efforts.
Mathieu, je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas proposé à BFM. Donc, est-ce que si on vous avait proposé ça aussi, vous n'auriez pas... Alors déjà, répondez peut-être Francis Magoire.
Oui, sur la méthode, moi je pense qu'on n'est pas du tout sur le même niveau. Alors je connais pas la trésorerie au niveau du groupe Next Radio. En ce qui concerne la trésorerie du groupe, donc tout à l'heure vous parliez de la relation entre une société et son groupe. Nous en fait on a un groupe qui s'appelle le groupe Amaury qui a une trésorerie qui se compte en centaines de millions. Donc nous ce qu'on dit régulièrement, c'est de dire attendons un petit peu, faisons un bilan après la reprise et profitons de cette trésorerie. D'ailleurs, cette trésorerie va être mise à contribution pour boucher le trou de 2020. Mais je pense que c'est beaucoup plus structurel qu'ils ne veulent nous le dire. Et ils avaient, je pense, avant la période du confinement, déjà un projet dans les tuyaux.
S'il y a un trou dans en 2020, il faut bien une solution. On ne peut pas se dire, on va prendre la trésorerie pour boucher le trou en 2020, d'accord, et en 2021. Oui. Donc il faut bien quand même, effectivement, s'interroger sur la pérennité d'un modèle. Et ça, c'est quand même le problème de la presse écrite souvent.
Alors, je vais un peu faire la même référence que mon confrère de Next Radio, là. Les trois derniers exercice était positif au niveau de résultats opérationnels, c'est-à-dire ce que l'activité dégage comme donc l'activité est rentable. Après, il y a tout un tas de facteurs que dans des grands groupes on ne maîtrise pas, c'est les coûts de structure. Par exemple, quand on déménage, c'est par exemple à la société d'encaisser cette charge. On a multiplié depuis 10 ans des PSE, des plans de sauvegarde pour l'emploi. C'est des plans sociaux. Hein. Le mot sauvegarde est un peu usurpé, je dirais. Et ça, c'est la société qui le finance et ça coûte très très cher. Oui. Donc ça va dans les comptes et ça permet de on ne peut pas repartir et comme à BFM on n'a pas de projet éditorial, c'est-à-dire qu'on est sur une période qui a peut-être jamais été aussi favorable au niveau d'un calendrier sportif qui est merveilleux. L'année prochaine, il y a des Jeux Olympiques, un championnat d'Europe. L'année d'après, il y a une Coupe du Monde et une Coupe du Monde de football. En 2023, une Coupe du Monde de rugby. En 2024, c'est l'apothéose avec des Jeux Olympiques à Paris. Donc c'est quand même
Et ils vous répondent quoi quand vous leur dites ça, la direction? Quand vous dites qu'il y a un programme formidable, on va gagner plein d'argent parce qu'il y a plein de compétitions. Ils ne se rendent pas compte?
Alors, si, bien sûr que si, qu'ils se rendent compte. Mais en fait, ils veulent gérer ça jusqu'en 2024. Donc, c'est pour ça que l'accord qu'ils nous proposent, c'est un accord qui va jusqu'à décembre 2024. Ouais. Et on a eu une confidence quasiment du directeur général quand il nous a un peu mis les projections sur 2022-2023. Et il nous a dit, on a gagné 2 ans. La crise du coronavirus nous a fait gagner 2 ans. Alors, on lui a dit, mais on a pas gagné. On a perdu 2 ans. Donc c'est pour vous dire que toute cette machinerie est en marche et pour nous en tant que quotidien la suppression du papier.
Ouais. Alors on y revient. On va marquer une toute petite pause et on revient dans un instant avec Mathieu Couache qui est en plateau avec nous, Francis Magoire, Rémi Pernelet et Gilles Gransman. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et je suis en studio avec Mathieu Couache, journaliste politique à BFM TV, ex-correspondant à Washington et porte-parole de la SDJ de BFM, BFM TV et RMC qui étaient en grève hier. Aujourd'hui, il y a une assemblée générale, on va en reparler avec vous. Francis Magoire, délégué général SNJ de l'équipe, qui est donc le plus gros syndicat du groupe. Là aussi, beaucoup de menaces sur l'emploi et sur les conditions de travail. Rémi Pernelet, journaliste journaliste spécialiste des médias, vous, et Gilles Gansman. Vous avez été surpris, Mathieu Couache, de voir à quel point la grève avait été suivie hier ?
Alors oui, surpris, parce que c'est pas du tout dans notre histoire. On n'avait jamais fait grève à BFM TV, ouais. Et à vrai dire, la question ne s'était jamais posée, puisqu'on a connu une ascension depuis 15 ans. Donc effectivement, on ne savait pas ce que ça allait donner. On s'est retrouvés devant l'immeuble tous ensemble, et on a été surpris de la mobilisation qui montre, à mon sens, une chose, c'est que les salariés aiment profondément cette rédaction, sont solidaires entre eux dans le groupe.
Et la réponse de la direction, c'est quoi ?
Alors, la réponse de la direction...
Il y a un peu le feu, non ?
Oui, il y a un peu le feu. Bon, en plus, vous avez suivi que
le débat des municipales de Sans Paris a été annulé.
Reporté en l'occurrence.
Ah, oui, mais enfin, ça dépend. Parce que si la grève est reconduite, Anne Hidalgo va encore faire la même opération, peut-être politique, ou en tout cas de soutien, je ne sais pas.
La position, en tout cas, des salariés, c'est de dire... on a eu une réponse à la grève de la part de la direction, puisqu'ils nous ont proposé, ils ont proposé aux délégués syndicaux, dont je ne fais pas partie, de se mettre à une table et de discuter ce matin. Donc la réunion a lieu au moment où on se parle. Ensuite, il y aura une assemblée générale et on verra.
Donc il se peut que le débat n'ait pas eu lieu ce soir.
Tout est possible. C'est possible.
Vous pensez qu'il y a quand même... Il y a plusieurs choses. Quand une direction comme ça annonce un truc très dur, c'est justement pour pouvoir l'assouplir, négocier, relâcher la pression et faire passer quand même ce qui serait peut-être pas passé au début. Vous pensez que c'est ça la position ?
Franchement, je ne connais pas personnellement cette nouvelle direction. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le groupe. Je ne connais pas ces gens. Ils ne sont pas... Là, ils sont venus nous voir très très récemment dans les locaux, juste avant l'Assemblée Générale, pour essayer de faire redescendre la pression. À part ça, franchement...
Ouais, c'est quand même Alain Veil qui chapeaute malgré tout. Donc vous le connaissez un peu,
je connais Alain Veil, effectivement, depuis 15 ans. Quelle est leur stratégie ? Très franchement, je ne la connais pas. Moi, je connais la nôtre, notre position, celle des journalistes. Et vraiment, je crois que l'envie, c'est de continuer à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire d'être numéro un, d'être partout.
Mais on peut se retrouver avec une situation de grève qui dure à BFM TV. C'est une première fois, mais ça pourrait être une grève un peu à la CNews il y a quelques années.
Je crois qu'on a tiré les enseignements de la grève de CNews. Voilà, mais je pense aussi que la rédaction est extrêmement mobilisée. Ça, je ne l'invente pas. Les chiffres, d'ailleurs, parlent d'eux-mêmes. Il y a eu un très fort pourcentage de grève. À BFM TV, on était au-dessus des 50%, mais c'est parce qu'il y a des pigistes, des consultants, mais à RMC, c'est 100% des journalistes. La grève a été suivie de façon écrasante. Donc,
Cette mobilisation, vous êtes soutenu par les gros salaires de BFM, d'Apolline de Malherbe, de Ruth Elkrief. Est-ce que vous êtes soutenu par les têtes d'affiche ? On a vu qu'hier, il n'y avait pas eu d'émission le matin et ni l'interview de
Jean-Jacques Bourdin.
Mais est-ce que vous avez des soutiens d'Apolline de Malherbe, de Ruth Elkrief, qui sont un peu l'image de la station ?
Alors, Apolline a dit quelque chose à l'antenne hier soir. Elle a dit que la colère devrait être entendue. Elle a eu des mots assez forts. Elle a pris le temps d'expliquer la situation aux téléspectateurs. Il y a des visages de l'antenne qui se mobilisent. Jean-Jacques Bourdin également. Oui, je crois qu'on se sent soutenu par les visages de l'antenne, mais parce qu'ils font partie de la rédaction, tout simplement.
Jean-Jacques Bourdin, par exemple, il a officiellement déclaré qu'il soutenait la grève ?
J'ai pas discuté directement avec Jean-Jacques Bourdin, en tout cas.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnel qui espère ça, qu'il soutienne.
Je crois qu'il est vraiment en soutien des rédactions dans ce plan social.
Mais pour revenir à ce que disait tout à l'heure Francis Maguet, que vous évoquiez aussi en disant il n'y a pas de projet, c'est quand même aussi ce qui est en train de se passer dans toute la presse et ce qui était le propos un petit peu de l'émission de ce matin, c'est de dire qu'aujourd'hui le projet éditorial passe après le projet financier, qu'aujourd'hui les chaînes et les médias souvent ont à leur tête des financiers et que c'est ce qui aujourd'hui détermine la stratégie d'une chaîne.
Mais moi, je ne le souhaite pas.
C'est quand même globalement ce qui se passe dans la presse écrite et dans la presse audiovisuelle et dans l'audiovisuel.
Enfin, c'est compliqué quand même d'expliquer ça à une rédaction qui gagne de l'argent, qui est leader, qui a fait des records d'audience absolus historiques pendant le Covid. Les Français sont venus sur BFM TV pour avoir de l'infoservice, pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre le confinement, le déconfinement.
Si
vous regardez les chiffres, BFM TV était largement devant ses concurrents avec une avance qui était plus importante que le reste de l'année. Ce qui veut bien dire que quand il se passe quelque chose, c'est chez nous qu'on va. Donc le projet existe. Il y a pas de doute. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que la direction d'Altice a en tête, on aimerait bien le savoir, à vrai dire.
Oui, vous pensez que, parce qu'en fait, si on regarde la crise un peu de un tout petit peu plus haut, ça touche absolument tout le monde quand même, toutes les chaînes,
même TF1,
M6, ils ont tous annoncé des réductions importantes de leurs bénéfices. RTL mutualise des choses pour avec que ça coûte M6, moins cher avec M6. Donc, est-ce que il y a trop de médias? Je me demande, est-ce qu'il y a trop de chaînes d'infos? C'est une question parce qu'il y en a 4. On est le seul pays où il y en a 4. Après, on peut se demander s'il y a trop de chaînes en général, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour les chaînes d'info, est-ce que vous pensez qu'il y en a trop ?
Alors, ça, c'est pas moi qui le dis. Effectivement, la direction de la rédaction l'a toujours dit, que 4 chaînes d'info dans un si petit pays, c'était peut-être trop. Mais enfin, dans tous les cas, s'il doit en rester une,
c'est vous.
Mais oui, non, mais je veux dire, c'est incontestable. Aujourd'hui, quand il se passe quelque chose, les gens se tournent vers BFM TV. Et on aimerait vraiment que ce soit toujours le cas à la rentrée, faut juste imaginer ce que c'est que la machine BFM TV. Quand il y a de l'actualité, il y a un déploiement de moyens qui est considérable et qui est très appréciable quand on y travaille. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre des caméras à tous les angles d'un palais de justice ou d'une manifestation, et c'est pour ça que les gens viennent chez nous. Donc on aimerait bien garder ce projet-là.
Et vous, à l'équipe, Francis Magoy, quel est l'avenir pour vous dans votre mobilisation?
Alors, on n'est pas du tout sur le même temps qu'à BFM. Donc, tout à l'heure, je parlais de manière souple. C'était plutôt sur la forme, parce que l'accord de performance collective induit une phase de négociation, de discussion avec la direction. Mais c'est plutôt sur le fond. Et sur le fond, c'est sur les mesures qui seraient prises si l'accord serait.
Mais pas signé. Aujourd'hui, vous avez 22 jours de RTT, vous ne pouvez pas en lâcher quelques-uns quand même. Vous pensez que ça ne serait pas injustifié?
Je vais vous faire un petit résumé de l'ensemble de ce qui est mis dans cet accord. Parce qu'il ne faut pas prendre une partie par une partie. C'est-à-dire qu'il y a 11% du salaire qui serait perdu, je dirais, à vitam aeternam. 16 jours de RTT, pareil, à vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est de manière indéterminée. Donc, on est arrivé à ce point où ce que propose la direction, c'est en gros une baisse globale de rémunération de 20%. Donc, c'est pour vous donner un exemple, je le prends souvent, c'est comme si que dans une semaine, vous donniez un jour de travail gratuit à votre entreprise. Donc, vous doutez bien que c'est très violent, les salariés sont vent debout. Alors, pour reprendre un peu ce qui s'est passé à BFM, à l'équipe, moi aussi, j'ai été un peu surpris de la mobilisation. Les salariés se sont regroupés dans un collectif de 200 à 250 personnes. Donc, pour vous donner une idée, l'entreprise, l'équipe, c'est 350 salariés. Donc, vous voyez bien que c'est plus des deux tiers. Et jusqu'à présent, ils ont adressé deux lettres au directeur général pour dire qu'ils refusaient en bloc toutes les mesures qui étaient dans cet APC.
Ouais.
Donc le volet social avec des grèves n'est pas encore d'actualité, mais je pense qu'il tôt ou tard, on va y arriver.
Merci beaucoup, Francis Magoy, Mathieu Couache. Donc on attend la fin de la matinée pour savoir si la grève est reconduite.
Oui, il y aura une assemblée générale après la réunion qui a lieu en ce moment entre les syndicats et la direction.
Pardon ?
Et s'il y aura le débat des municipales parisiennes.
Vous voulez le regarder, vous, le débat ?
Oui, ça m'amuse beaucoup.
Merci à vous, merci Rémi Pernelet. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. 0826 300 300, à tout de suite.